Priorité santé. Sandrine Mercier.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans Priorité Santé. On fait le constat alarmant qu'après 30 ans de sida, on se contamine toujours. 8000 nouveaux cas par jour dans le monde et presque 7000 cas par an. En France, les campagnes de prévention dans le milieu gay ou auprès des couples ne touchent donc pas tout le monde. Il existe des populations invisibles, des hommes qui se rencontrent dans des lieux extérieurs pour avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes, mais qui ne se sentent pas vraiment homosexuels. Alors comment toucher ces gens pour qu'ils utilisent des capotes et se fassent dépister? Comment faire en sorte que les campagnes de prévention touchent tous les publics? On en parle avec le professeur Alain Sobel, immunologiste clinicien à l'unité de thérapeutique en immuno-infectiologie de l'Hôtel Dieu à Paris, et Jérôme André, président de l'association HF Hommes-Femmes comme Hommes-Femmes Prévention. On attend vos questions, vos témoignages au 33 1 84 22 75 deux fois. Professeur Alain Sobel, on a une question de Simon, donc à Yaoundé, du Cameroun. Est-ce vrai que les homosexuels sont plus susceptibles d'attraper le VIH que les hétéros? Et si oui, comment cela s'explique-t-il?
Alors, c'est vrai pour de différentes raisons. Il est certain que dans tous les pays du monde, aussi bien en Afrique qu'aux États-Unis, qu'en Europe, les homosexuels ont plus de risques. Alors, ceci s'explique à la fois par les pratiques sexuelles, et il est certain que les rapports anaux sont plus contaminants que les rapports vaginaux, mais cela ne suffit pas à expliquer les plus grands risques. Habituellement, les personnes ayant des rapports avec d'autres hommes, les hommes ayant des rapports avec d'autres hommes, ont plus de rapports que les autres, et des changements de partenaires plus fréquents. C'est d'ailleurs ce qui était dans le reportage que vous avez entendu
Maurice
tout à l'heure.
Disait...
Enfin, il y a un dernier aspect qui me paraît extrêmement important, c'est l'aspect furtif, clandestin des rapports, et ceci était aussi implicite d'ailleurs dans votre reportage. Et ceci est vrai... aussi bien dans les lieux de rencontres extérieures dont parle Jérôme, qui sont des lieux avec des personnes rencontrant d'autres hommes mais ne se considérant pas comme gay, mais c'est vrai aussi ces rapports clandestins et ces rapports furtifs, donc non planifiés, si vous voulez, non organisés, dans les pays où l'homosexualité est stigmatisée, voire pourchassée, voire sanctionnée, menacée de prison. Dans tous ces pays, bien entendu, où il y a une menace, eh bien, on entre dans la clandestinité, on entre dans la furtivité.
Et ça, c'est un handicap pour lutter contre l'épidémie. Oui. Et on va avoir tout de suite en ligne, justement, le professeur Hakima Imich, chef du service des maladies infectieuses du CHU de Casablanca. Il est spécialiste du VIH. Bonjour.
Bonjour. Je ne suis plus chef de service du service de maladies infectieuses. Je suis présidente de l'association de lutte contre le sida.
Merci beaucoup en tout cas, professeur Hakima Imich, d'être avec nous en direct. On parlait justement avec le professeur Alain Sobel de ces populations cachées et de la difficulté de les toucher en matière de prévention. Vous en êtes où, vous, au Maroc?
Alors, écoutez, le Maroc est le pays des contrastes. L'homosexualité est condamnée par la loi à 3 mois de prison et 50 € d'amende, mais... Depuis 1992, notre association a développé des programmes de prévention, de proximité auprès des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ces programmes sont financés par le ministère de la Santé, par le Fonds mondial, via le ministère de la Santé. La prévention auprès des hommes et en relations sexuelles avec d'autres hommes est inscrite dans le plan stratégique national. Et voilà, c'est à la fois interdit et en même temps, nous arrivons à travailler avec ces populations sans grande difficulté. Mais n'empêche que je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire le professeur Sobel, c'est qu'il est difficile de toucher certaines de ces populations et que la prévalence parmi les HSH au Maroc est de 4,5% à Marrakech, de 5% à Agadir, alors que dans la population générale, elle est de 0,1%. Donc il est capital de travailler avec ces populations clé, pour utiliser la terminologie de l'OMS et de l'ONU-SIDA. Et voilà, et c'est pas facile de le faire quand c'est pénalisé.
Et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, vous, des pouvoirs publics ?
Écoutez, c'est déjà, nous sommes très contents qu'on nous laisse travailler. C'est pas le cas, malheureusement, dans tous les pays de la région Maghreb, Moyen-Orient. Nous ne rencontrons pas de difficultés avec la police, avec le ministère de l'Intérieur. Le ministère de la Santé nous fournit les préservatifs, accepte sans difficulté nos programmes. Maintenant, ensuite, c'est aux associations de droits de l'homme de se mobiliser pour changer le contexte juridique.
Professeur Alain Sobel, vous voulez échanger pour terminer avec Hakim Aymich ?
Ben, si vous voulez, oui, je pense qu'effectivement, Hakim raconte une situation au Maroc où il y a cette ce paradoxe, si vous voulez, entre une possibilité d'intervention dans la prévention, dans le dépistage, dans la prise en charge, alors même que légalement, la situation d'homosexualité est sanctionnée, pénalisée, pourchassée. Le Maroc se situe dans une situation peut-être un peu plus favorable que bien d'autres pays d'Afrique ou d'ailleurs, il n'y a pas du tout que l'Afrique. La situation de stigmatisation, de non reconnaissance de l'homosexualité entraîne des difficultés considérables pour lutter contre cette maladie et d'autres maladies d'ailleurs qui peuvent éventuellement cibler des pratiques sexuelles disons non normalisées ou qui sont pas acceptées par la société dans laquelle on vit.
C'est pour ça qu'il est toujours d'actualité d'en parler comme aujourd'hui dans Priorité Santé. Merci beaucoup, professeur Hakim Aymich, donc spécialiste du sida en direct du Maroc.
Priorité Santé sur RFI.
Et pour parler toujours du VIH et de ces populations invisibles, on a Serge Douomong Yota qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Serge.
Bonjour Claire.
Alors c'est Sandrine aujourd'hui, Claire est partie en vacances pour 15 jours. Alors on est très content que vous nous appeliez parce que vous travaillez à Affirmative Action. Et vous aussi, vous luttez contre le sida auprès des populations vulnérables à Yaoundé. Racontez-nous comment vous procédez.
Oui, tout à fait. Déjà, je voudrais d'abord répondre à Simon qui a posé une question concernant l'homosexualité. Elle lui dit que la prévalence nationale au Cameroun chez les HSH, donc les hommes ayant un rapport sexuel avec les hommes, est estimée à 37,2%, tandis que la prévalence au sein de la population en général est estimée à 4,1%. Donc déjà, on peut voir la différence éclatante qui entre les deux couches. En effet, récemment, il y a une étude qui a été menée par une ONG au Cameroun qui a touché, je veux dire, un échantillon de 600 personnes, 600 MSN, bien 600 HSH. Quand je vais, comme ce matin, dans un site de rencontre entre hommes, je me rends compte qu'il y a 336 connectés seulement dans la ville de Yaoundé qui sont effectivement des personnes homosexuelles. On se pose donc la question. Pourquoi on fait une étude comme celle qu'a menée cette ONG, on ne parvient pas à toucher une grande partie de la communauté, mais quand on va sur Internet, on voit autant de personnes, ils sont 1336, bien sûr, de rencontres.
Alors Serge, la communication n'est pas très très bonne. Ce qu'on comprend en tout cas, c'est que vous, au Cameroun, vous avez aussi la possibilité de travailler.
Effectivement. Donc, on travaille beaucoup plus également sur Internet, parce que effectivement, toutes les populations marginalisées, dont les HSH, sur Internet pouvoir avoir des rencontres. Mais cela est surtout motivé par le cadre juridique et le cadre légal, parce que les rapports sexuels entre personnes de même sexe sont criminalisés. Et ces personnes-là, par peur d'être exclues de leur vie de travail, ou bien de la famille, ou bien par peur d'être emprisonnées tout simplement, sont obligées d'entretenir des relations dans le noir, de façon cachée. Et cela vraiment complique vraiment toute une question parce que.
Oui, alors Jérôme André, qui est le président de l'association HF Prévention, a aussi envie de réagir à votre témoignage, Serge.
Oui, effectivement, nous ce qu'on constate, parce qu'on a des liens effectivement avec pas mal d'associations en Afrique et un peu partout dans le monde sur les lieux de rencontre extérieurs. Chez nous, effectivement, les lieux de rencontre extérieurs, même si ça ne paraît pas être marginal, on se rend compte que ailleurs, quand il y a de la répression en direction des homosexuels, les lieux de rencontre, il y a une véritable explosion de trafic et de personnes qui vont effectivement venir sur ces lieux de rencontre. Et en l'occurrence, ce que disait Serge, c'est qu'il y a beaucoup plus de prévention à faire sur Internet. C'est aussi le constat que nous on fait, c'est-à-dire que on a eu des dégradations qui ont été faites suite au mariage pour tous, puisqu'effectivement, donc il y a eu la loi sur le mariage pour tous qui a engendré donc des manifs pour tous, donc contre le fait que des homosexuels puissent se marier. Ça a engendré aussi une montée en puissance de l'extrémisme en France. Et donc, ça a conduit à avoir des dégradations de lieux de rencontres extérieures, de personnes qui ont remis à l'ordre du jour des triangles roses et autres. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a déposé, nous, des plaintes donc pour menaces de mort et homophobie.
Et ça craint aussi pour vous, avec vos camions, quand
vous
déplacez sur ces lieux.
Ah, mais nous, on a eu des menaces, très clairement, des menaces de mort et autres. D'ailleurs, on rencontre le préfet des Yvelines très rapidement demain, justement, pour pouvoir donc en discuter avec lui. Et on s'aperçoit que, du coup, les gens ont tendance à encore plus rentrer dans la clandestinité de leurs relations sexuelles, voire à aller aussi sur Internet, ce qui pose aussi un certain nombre de problèmes, parce que les rencontres sur Internet échappent clairement à la prévention. Aujourd'hui, le ministère de la Santé ne souhaite pas forcément développer cet axe de prévention sur Internet. Et en l'occurrence, ce que eux constatent, c'est-à-dire devoir faire de la prévention sur des lieux de rencontre extérieurs, puisqu'ils ont, ils en ont beaucoup plus que nous, hein, il faut l'imaginer, puisqu'il y a plus de répression, eh bien, ils ont aussi le constat de dire qu'avec la montée en puissance de l'Internet, eh bien, les gens vont sur Internet aussi pour se rencontrer.
Il y a aussi le smartphone qui multiplie aussi les rencontres, enfin, oui.
Absolument, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire que les systèmes, les applications de smartphone, quelle que soit la marque, avec une géolocalisation d'un partenaire possible, sont effectivement des rencontres, enfin, des occasions de rencontres avec des risques considérables. Je voulais juste peut-être souligner, puisque les vandalismes et autres que vous avez eus à HF Prévention étaient en particulier, ont augmenté en particulier au moment de tout ce débat qu'il y a eu cet hiver et au printemps autour du mariage pour tous. Il faut dire quand même que je regrette ce vandalisme, bien sûr, que dans une société où plus de 60% des Français étaient finalement assez favorables au mariage pour tous, tous les sondages l'ont montré, la situation de la lutte contre le sida est quand même plus facile que dans une société que nos correspondants décrivent, où la loi est contre les homosexuels, et le sentiment dans la population est aussi un sentiment de stigmatisation. Donc les gens le ressentent avec leur propre culpabilité d'avoir des désirs, d'avoir des relations avec d'autres hommes, et de passer éventuellement à l'acte. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'installer une prévention dans ces pays.
En tout cas, on remercie Serge Douomong Yota de Yaoundé, et pour son travail aussi qu'il fait avec Affirmative Action, donc cette organisation de lutte contre le sida auprès des groupes vulnérables basés donc dans la capitale du Cameroun. Et on a maintenant tout de suite au téléphone Eric qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Bonjour Eric.
Bonjour, bonjour Sandrine.
Alors vous aussi vous êtes un membre actif, je dirais, pour lutter contre le sida.
Oui, exactement, mais je le faisais à Abidjan depuis les années et là, depuis que je suis à Dakar, c'est impossible de le faire parce que les associations... D'abord, c'est un pays musulman et les associations, c'est vraiment compliqué de les intégrer.
Alors, j'aime bien parce que dans votre message, vous donnez effectivement comment on appelle ces homosexuels, enfin, qui ne se revendiquent pas vraiment homosexuels, mais qui mènent une double vie. Alors, chez vous, vous les appelez les placards. Hein.
Oui, on les appelle les placards parce qu'ils sont dans le placard. Chez nous, ils sont cachés. Et ce sont ces personnes qui sont plus vulnérables, c'est-à-dire qui transmettent beaucoup la maladie. Donc c'est vers eux qu'on part, parce que ces personnes ne se reconnaissent pas en tant qu'homosexuels. Donc c'est vers eux qu'on part. On essaie de parler des risques du VIH et de la surobésité. On ne fait pas parce qu'ils aient notre conscience. Et après, on les envoie dans un centre spécialisé où on fait le test, ils sont séropositifs, on les prend en charge, ou ils sont séronégatifs, on essaie de les suivre pour qu'ils aient un comportement sain.
Est-ce que vous aussi, vous avez dans cette population, comme Thierno Amadou qui nous écrivait de Dakar, il nous dit qu'il y a encore beaucoup de gens au Sénégal qui nient l'existence même de l'endémie du sida.
Oui, même qui nient, et même les préservatifs, c'est pas facile d'en trouver ici à Dakar, pour aller dans les pharmacies, c'est très compliqué même pour acheter. Ils ont un peu ce tabou d'acheter des préservatifs, donc c'est quelque chose de très compliqué. Par contre, quand j'étais à Abidjan, c'est quelque chose qu'on distribuait à tout le monde avec du gel. Et on en parlait, on faisait sensibilisation. Et j'ai même fait un dépliant, comment je dis, l'association a fait un dépliant où j'ai même posé ma photo pour dire qu'utiliser le gel et le préservatif, c'est très important. Et pour faire passer l'information dans la population, et ça marche aussi chez les hétéros parce qu'ils sont très contents de dire, ah, au moins vous sensibilisez la population. Et les gens qui ne savent pas l'orientation sexuelle aussi, ça les aide beaucoup.
Et alors, qu'est-ce qui fait, vous, que Eric, vous êtes aussi autant mobilisé?
Bon, parce que on n'a qu'une seule vie et il faut vivre sa vie. Parce qu'il y a de la nouvelle la génération qui arrive, ne sait rien de tout le VIH. Moi, je le fais parce que je veux sauver des vies et j'ai envie que les gens vivent mieux, qu'ils vivent mieux la sexualité et qu'ils ne soient pas stigmatisés. Et les gens qui ont une double vie, il faut qu'ils savent pouvoir gérer cette double vie, pour ne pas contaminer, parce que le mot qui va chercher la maladie dehors, c'est lui qui vient redonner à la femme, et la femme qui donne à l'enfant, et ça va.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Eric. On entend bien que vous êtes, vous, complètement dans le non-jugement. Alain Sobel, vous vouliez réagir?
Oui, alors, le non-jugement, ça, c'est sûr que c'est absolument fondamental. On ne peut pas faire ce métier où les objectifs que l'on cherche, si l'on juge l'autre. Mais on tourne autour d'une notion qui me paraît extrêmement importante à souligner, c'est la spécificité de la prévention dans les maladies sexuellement transmissibles. La sexualité n'est pas tout à fait la même chose que les problèmes alimentaires du diabète ou les problèmes de l'hypertension artérielle, alors que ce sont des maladies de santé publique avec beaucoup de personnes atteintes aussi et qui nécessitent une prévention. L'hypertension ou la nutrition, ce sont des modèles de prévention. Dans la sexualité, on est donc dans des comportements et dans des attitudes humaines qui ne sont pas programmées de façon rationnelle, à heure fixe comme le repas, si vous voulez. Donc, on est, et on le décrit bien dans ces population, on est dans du désir, dans des mouvements d'impulsion ou de pulsion, si vous voulez, et nos correspondants africains le décrivent parfaitement, c'est vrai partout, bien entendu. Et donc, la prévention est plus difficile, et l'intégration de comportements rationalisés, tenant compte de la maladie, dans une vie sexuelle et dans des événements sexuels, est quand même beaucoup plus difficile à faire.
Et alors, comment
vous
intervenez?
Je voudrais juste signaler que dans ce contexte, les résultats de l'enquête VESPA 2, qui sont parus ce matin au bulletin épidémiologique hebdomadaire, montrent parfaitement ceci. C'est-à-dire que les gens sont parfaitement au courant et ne vont pas forcément utiliser un préservatif à 100% de leur relation, même lorsqu'il y a risque pour leur partenaire.
Et c'est pour ça que les cas de contamination continue d'exister. On disait 8000 par jour dans le monde.
Dans le monde, oui.
Jérôme André, comment vous parlez, justement, puisque vous allez sur le terrain, comment vous parlez avec ces gens? Comment vous invoquez cette sexualité? Comment vous les amenez jusqu'au dépistage?
Alors moi, je crois que notre méthode d'intervention, elle est comme toutes les associations. Effectivement, on a eu des correspondants d'un peu partout. Je pense qu'on a tous un peu la même méthodologie, c'est-à-dire qu'on est dans des lieux qui doivent rester plus ou moins anonymes, avec des gens qu'on ne peut pas aborder de manière frontale. Il faut vraiment imaginer que ces associations comme la nôtre, qui travaille sur le terrain, il n'y en a déjà pas assez, clairement. Et on est vraiment donc un peu des snipers de la lutte contre le sida, parce qu'on va chercher des gens qui sont très fortement en prise de risque, et on va donc les éduquer à avoir une prévention qu'ils n'auraient jamais imaginé donc avoir. Alors effectivement, nous on a beaucoup plus d'hétérosexuels que d'homosexuels, ce qui est pas forcément le cas donc des pays où effectivement il y a beaucoup plus de répression, puisque là les homosexuels n'ont pas la possibilité d'aller dans d'autres lieux. Mais donc nous, on est vraiment donc dans une notion d'aller vers, et c'est vraiment une méthode qu'on a développée. Le camping-car n'est qu'un outil, ça nous permet effectivement de pouvoir faire faire des tests, mais aussi de créer des moments de convivialité. Quand on parlait des tests tout à l'heure, une minute pour savoir, c'est aussi un entretien avec les gens qui en général durent un quart d'heure, une demi-heure, une heure, ça dépend de ce que eux souhaitent donc nous livrer. Et on va donc faire ce qu'on appelle de la réduction des risques. Alors effectivement, on accoste les gens en leur proposant du matériel de prévention tout d'abord, et ensuite le gros de notre travail, c'est d'avoir des entretiens avec eux, de leur expliquer comment se protéger en fonction de leur rapport sexuel, parce que la plupart du temps, effectivement, ils ont des rapports avec d'autres hommes, mais ils ne savent pas comment se protéger, puisque pour des hommes mariés,
c'est incroyable de ne pas savoir comment on sait. On ne sait pas de nos jours de savoir se protéger avec une capote. Ça paraît quand même.
Il faut quand même imaginer que ce sont des personnes hétérosexuelles qui ont des femmes, qui ont abandonné le préservatif, voire même qui n'en ont jamais mis depuis des années. Et là, ils se retrouvent à devoir mettre des préservatifs parce qu'ils ont des relations sexuelles. Alors, comme le disait Alain, avec pulsion. Mais pour le coup, on est vraiment dans une notion où ils vont devoir apprendre à faire de la prévention en fonction de nouveaux comportements qu'ils ont adoptés. Alors, nouveaux, oui et non, parce que pour certains, ça fait des années qu'ils le font. Et là où nous, on est quand même très inquiets, c'est que ces populations qui le vivent de manière très épisodique, hein, pour eux, ils peuvent être très réguliers sur les lieux de rencontre, etc. Mais pour eux, c'est vraiment des moments précis donc de leur vie. Quand on met, nous, nos salariés, par exemple, l'année dernière, on a commis l'erreur de mettre des salariés en vacances 15 jours, on s'est retrouvé effectivement avec des gens qui se sont retrouvés en prise de risque beaucoup plus que d'habitude. On s'est retrouvé avec des gens qui allaient chercher des traitements post-exposition. On s'est retrouvé avec une prostituée qui a été contaminée et qui nous a contaminé d'autres personnes derrière. On se rend bien compte que l'éducation à la sexualité que font les autres associations dans le milieu gay est beaucoup plus compliquée à faire auprès de ces populations invisibles.
Vous êtes un vrai élément de santé publique et pourtant vous allez peut-être avoir des problèmes de subvention. On va terminer avec ça, Jérôme André.
On les a déjà, les problèmes de subvention. C'est-à-dire que l'Agence régionale de santé d'Île-de-France considère en tout cas, on nous l'a dit clairement, les associations qui sont maintenant appelées des opérateurs, et maintenant on est limite des prestataires de services, et donc ils veulent mettre un coût unitaire à chaque action, hein, ce qu'on peut comprendre par ailleurs, mais on est quand même, nous, au cœur du dispositif et de la problématique de contamination VIH-IST-SIDA. Et on se rend compte que notre association, par exemple cette année, on nous enlève 20% de subventions, pas parce que c'est la crise, mais parce que on a quelqu'un qui souhaite maintenant faire du management budgétaire. Donc on nous enlève 20% de subventions et on nous demande de prendre un territoire d'action en plus, à savoir un département en plus, avec les 20% de subventions en moins, ce qui est juste une hérésie, mais donc ça devient très compliqué. Ouais.
On marche la tête à l'envers. On va finir avec un bilan du festival Solidaise qui s'est tenu à Longchamp en région parisienne et sur l'appel lancé par Solidarité SIDA. Hey
Priorité santé sur RFI.
Bonjour Luc Baruet.
Bonjour.
Alors vous êtes le directeur fondateur de Solidarité SIDA, heureux de cette 15e édition de Solidaise qui s'est tenue ce week-end à Longchamp.
Écoutez, le sentiment du devoir accompli.
Non, c'était un chiffre record, non, en termes de recettes. Et vous avez aussi dimanche fait un super happening impressionnant, tous couchés pendant 5 minutes dans le silence. Qu'est-ce que ça a donné?
Bah écoutez, oui, comme vous le disiez, d'abord, ça a été un très bon week-end parce que les chiffres sont là. On a fait près de 170 000 festivaliers, on a généré près de 2 millions d'euros pour la lutte contre le sida, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, ce festival, on a souhaité le mettre sous l'angle de l'accès au traitement dans les pays en développement. Et donc, on a décidé dimanche de faire un grand dying. Donc, on a transformé Longchamp en un cimetière humain en hommage aux personnes victimes du sida. Et donc, on a réussi à faire en sorte que les 55 à 60 000 personnes qui étaient là dimanche après-midi s'allongent sur les prompes de Longchamp. Ça n'a pas été facile à mettre en place, mais les gens se sont le long fait, comme ils l'ont fait il y a quelques années. Donc ça a été un moment assez émouvant et qui prouve que ce festival, tout le monde ne vient pas que pour la musique.
Jérôme André, vous y étiez ?
Oui, nous, tout à fait. On avait donc un stand HF Prévention au Solidays. On remercie encore l'organisation de nous avoir permis d'avoir ce stand parce que c'est vrai qu'il y a un village associatif, mine de rien, donc au Solidays. Et c'est vrai que ça permet aussi d'avoir pour les associations une vraie visibilité. Et on a encore remarqué que cette année, il y avait une bonne ambiance, beaucoup de bons concerts et puis surtout beaucoup de solidarité.
Alors Luc, Baruet, vous en appelez au président de la République donc pour que la France augmente sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Pourquoi vous faites ça aujourd'hui ?
Bah écoutez, on fait ça aujourd'hui pour des raisons bien simples. Un, parce que les grandes puissances de ce monde se sont engagées à essayer de faire en sorte que l'accès universel au traitement soit effectif en 2015. On n'y sera pas, mais en tout cas, l'idée, c'est de tendre vers ça. Qu'aujourd'hui, il y a toujours à peu près 54% des malades qui ont accès au traitement sur les 15 millions qu'on en a besoin, donc c'est pas assez. Et que la France, aujourd'hui, en tout cas nous on en est fiers, la France a toujours eu un leadership important sur le terrain de la lutte contre le sida et des grandes pandémies, sous l'impulsion de Jacques Chirac, que ce soit avec la mise en place du Fonds mondial ou avec la taxe aérienne United. Et donc l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est de faire en sorte que, dans une période de crise, eh bien les grandes puissances n'en profitent pas pour baisser, en tout cas remettre en question leurs engagements et baisser leurs contributions, puisqu'aujourd'hui on n'a pas encore assez de gens pour essayer de faire en sorte qu'on dépasse les 8 millions de malades sous traitement. Et la peur que nous avons et l'inquiétude légitime, c'est que sous couvert d'une crise économique, eh bien les différents pays donateurs du fonds mondial baissent leurs contributions, surtout si les États-Unis et la France n'impulsent pas une dynamique plutôt participative.
Oui, parce que la France est actuellement le deuxième pays contributeur derrière les États-Unis, donc elle a un vrai rôle. Et François Hollande doit prendre sa décision à quel moment ?
Eh bien, écoutez, dans les prochaines semaines. Donc il y a un lobbying qui se met en place depuis quelques semaines, et puis on a essayé de jouer notre rôle avec Solidez et d'appeler à signer bien évidemment cet appel sur le site desmédicamentspourtous.org. Et la bonne surprise, c'est qu'il y a une grande mobilisation, que ce soit d'anonymes, d'artistes, de politiques, de gauche, de droite. Donc voilà, maintenant on va passer à la deuxième phase de la campagne, c'est essayer de faire en sorte de faire pression ou d'accompagner les gens qui doivent décider à l'Élysée, à Matignon et au ministère du Budget.
Bravo, on est avec vous. On est avec vous. On est avec vous, Luc Berruet. Merci d'avoir été avec nous en direct. Vous êtes le directeur fondateur de Solidarité Sida. Merci aussi à vous deux pour nous avoir alertés sur ces invisibles et le VIH. Je vous rappelle donc était avec nous Alain Sobel, immunologiste à l'Hôtel Dieu de Paris, et Jérôme André, président de l'association HF Prévention. Merci à toute l'équipe Assez-Tout, Samaquier, Didier Bleu et Jeanne Cherkfos. Merci pour vos messages. Et on vous attend demain, même heure, pour parler des nouveaux traitements de maladies de peau, cicatrices, vieillissement, comment les dermatologues peuvent agir. On attend vos messages, vos témoignages au 33 1 84 22 75 75 et sur notre page Facebook portée.